dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et à débattre dans votre émission ce soir, les conséquences possibles de l'entrée au gouvernement de l'ancien leader de l'opposition au Burkina Faso et la crédibilité de l'opposition en Afrique. Pour l'instant, retrouvons notre invité décryptage sur le Sénégal.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Professeur Dibi Diakaté, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes sociologue et enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. De jeunes sénégalais dépités par un nouveau couvre-feu imposé par les autorités pour tenter de contenir la progression du coronavirus ont manifesté dans certaines villes du Sénégal, dont la capitale Dakar. Qu'est-ce qui explique ce ras-le-bol des jeunes?
Oui, nous avons plusieurs facteurs qui l'expliquent. Je crois que le premier facteur est le facteur économique. Vous avez des jeunes qui sont essentiellement dans le secteur informel, ils sont essentiellement dans le petit commerce en milieu urbain, mais ils vivent en milieu périurbain, dans une certaine précarité. Et ces jeunes, évidemment, ont vu leurs activités qui leur permettent de bricoler des solutions de survie être plus ou moins ébranlées par le couvre-feu. Deuxième chose qu'il faut noter, c'est que, évidemment, la mesure a été prise de façon plus ou moins brutale, et que donc les populations sénégalaises n'ont été mises au courant que moins de 24 heures avant. Donc il n'y a eu aucun signal avant-coureur de cette mesure concernant le couvre-feu. Troisième chose qu'il faut voir, c'est que lors de la première vague, il a été pris justement la mesure du couvre-feu, qui a été ponctuée par des violences, notamment en milieu urbain, par des manifestations des jeunes en milieu urbain. On a l'impression que ces manifestations ont constitué le point de départ de ce nouveau couvre-feu qui a été pris par les gouvernants. Et dernier élément qui me semble important dans cette affaire, c'est que le couvre-feu ne concerne que deux régions, c'est-à-dire la région de Dakar et la région de Thiès. Or, précisément, il existe d'autres régions au Sénégal où les cas sont aussi préoccupants, qui n'ont pas été concernés par la mesure du couvre-feu. Alors, toutes ces choses-là ont créé une sorte de frustration.
Une colère d'autant plus que le taux de chômage des personnes actives augmente. Il est passé de 14,3% en 2018 à 17% en décembre 2019, selon le dernier rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.
Vous avez parfaitement raison. Le coronavirus a installé une situation assez dramatique, a créé une situation de délabrement du tissu économique sénégalais et dans tous ces secteurs constitutifs. Et cela fait évidemment que le taux de chômage a augmenté et cela expliquerait certainement le phénomène de ce que l'on a appelé au Sénégal « Barça » ou « Barça », c'est-à-dire aller en Europe ou mourir, l'immigration clandestine, qui a connu évidemment des proportions excessivement inquiétantes ces dernières semaines. Parce que précisément nous avons un tissu économique sénégalais qui a été fortement touché par l'épidémie du coronavirus. Le fait que l'on arrête finalement les quelques activités auxquelles ça donnait aux jeunes, dans un contexte qui est excessivement difficile, a été la goutte d'eau de plus qui a fait déborder le vase dans les régions de Thiès et de Dakar.
Certains jeunes ont brûlé des pneus sur la voie publique, mais pour l'instant, la violence semble mesurée ou contenue. Y a-t-il des risques que la contestation aille plus loin ou prenne d'autres formes si le couvre-feu venait à durer?
Alors, il faut justement voir la période des 12 jours que l'on est en train d'observer avec beaucoup d'attention. En réalité, le couvre-feu ne couvre que 12 jours. À la fin des 12 jours, il faudra bien que l'Assemblée nationale prenne la décision de proroger. Donc, on peut lire les événements qui se sont manifestés dernièrement comme une sorte de signal pour les autorités, une façon de leur dire, mais ne dépassez pas les 12 jours. Donc, on peut estimer, on peut considérer valablement qu'au bout des 12 jours, si l'Assemblée nationale prend la décision de la prorogation du couvre-feu, on risque d'avoir encore des manifestations, non pas seulement dans les deux régions Dakar et Thiès, mais sur l'étendue du territoire cette fois-ci. Parce qu'en réalité, ces deux régions constituent le poumon économique du Sénégal et que les jeunes des autres localités ont tendance à déferler vers Thiès, vers Dakar pour des activités diverses. Et en conséquence, lorsqu'on ferme Dakar et Thiès, c'est comme si, collectivement, on fermait les autres régions du Sénégal.
Donc vous pensez, professeur, que vous pensez que le gouvernement n'a pas d'autre choix que de lever le couvre-feu au terme des 12 jours?
Oui, je crois que ce qui constitue, et d'ailleurs c'est l'appel de beaucoup de personnes ici au Sénégal, y compris hein, de certains soignants, qui considèrent en fait qu'on peut mettre en place un dispositif beaucoup plus souple et beaucoup plus intelligent qui pousserait les gens à respecter surtout les mesures barrières et à éviter les rassemblements. Nous sommes au Sénégal, il y a encore des rassemblements liés à des pratiques religieuses, liés à des cérémonies familiales, etc.
Donc vous dites clairement que le gouvernement a d'autres alternatives que le couvre-feu pour contenir la progression du coronavirus.
Absolument. Alors ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que depuis bientôt un an, le poste de premier ministre a été supprimé et du coup, la coordination de l'activité gouvernementale pose quelques problèmes. Je dis simplement qu'un premier ministre qui serait là pourrait travailler dans le sens de mettre en synergie beaucoup de ministères qui ont certainement un rôle à jouer dans la lutte intelligente contre la propagation du virus, qui pourrait, je crois, mettre ensemble leurs forces dans le sens d'une communication beaucoup plus agressive, beaucoup plus massive, qui va vers les populations, vers les acteurs et les familles d'acteurs, et les mobiliser autour de la connaissance de la maladie.
Professeur Dibi Diakaté, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Sociologue et enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h14 à Paris et à Yaoundé au Cameroun, 17h14 à Abidjan et à Ouagadougou. Quelles pourront être les conséquences de l'entrée au gouvernement de Zéphirin Diabré, président de l'UPC et ancien chef de file de l'opposition, sur l'opposition justement burkinabé et même africaine? Nos invités pour en débattre sont Moussa Zerbo, porte-parole de l'Union pour le progrès et le changement UPC de Zéphirin Diabré. Il est à Ouagadougou. Emmanuel Sim, troisième vice président du MRC, principal parti d'opposition au Cameroun, le parti du professeur Maurice Kamto, et enfin Dr Arthur Mbanga, voilà, historien et politologue, enseignant, chercheur à l'université Oufouet-Boigny en Côte d'Ivoire, précisément dans la capitale économique Abidjan. Messieurs, bonsoir, vous m'entendez?
Bonsoir, madame, maître Sim Beyoundé, je vous entends très bien.
Merci beaucoup, maître Sim, soyez les bienvenus, messieurs. Je commence avec vous, monsieur Moussa Zerbo, qui est à Ouaga, qui est concerné en premier par ce sujet. L'entrée au gouvernement du leader de votre parti n'a manifestement pas surpris certains Burkinabés. La presse affirmait même que ce n'est plus sa nomination, n'était plus un secret.
Dit cela, moi je pense que cela relève aussi d'un certain niveau de débat. Pour la simple raison aussi, peut-être qu'ils se sont basés sur notre positionnement après les élections, puisque notre constitution dit que la deuxième force politique du pays est d'office le chef de file de l'opposition. Et comme nous arrivons en troisième position, peut-être cette lecture qui leur ferait dire que n'étant plus chef de file de l'opposition, certainement qu'on pourrait être tenté d'aller vers la majorité. Bon, ça c'est une lecture que les gens veulent faire, mais en réalité, les choses sont plus profondes que cela.
D'accord. Et vous allez justement nous expliquer, parce que c'était ça ma prochaine question, quelles sont les raisons de ce rapprochement avec le pouvoir?
Bien, en réalité, il faut dire que, comme on l'a dit, la politique ne doit pas prendre le dessus aussi sur les intérêts supérieurs de nos pays. Tout comme le président Zéphirin Diabré, lors de sa campagne, il a toujours dit ceci, et qu'il n'avait aucun problème de personne avec quiconque que ce soit, et qu'il serait à l'aise au cas où il est élu de travailler avec l'ancienne classe politique dirigeante d'avant et la nouvelle classe dirigeante d'aujourd'hui. Et en réalité, il en a fait de son cheval de bataille la réconciliation. C'est cet homme qui a réussi justement la société civile, aussi bien que les partis politiques, les réunir dans un même cadre. Vous savez que en 2014, lorsque on partait à l'insurrection, c'était avec un groupe bien connu contre un pouvoir en place. Mais après les élections, c'est au niveau du chef de file de l'opposition que M. Diadré a travaillé en bonne intelligence avec ceux qu'il a combattus en 2014, notamment le parti de Blaise Compaoré, jusqu'à la fin de cette législature qu'on vient de finir en 2020. Mais... Donc c'est pour dire que c'est un homme qui sait faire le consensus, qui sait à quel moment il faut faire telle ou telle divergence. Et moi, je pense que l'approche qu'a eu le président du FASO vers lui pour le solliciter à ce poste de responsabilité, c'est une marque aussi de confiance et de considération.
Mais moi, certains parlent surtout de retrouvailles, M. Zerbo, étant donné que, je le disais à l'entame de cette émission, M. Diabré a été ministre de l'économie et des finances lorsque le président Kabore était alors Premier ministre. On parle de retour dans sa famille naturelle.
Bon, dire ça aussi, c'est un peu trop osé. Pourquoi il était parti de cette famille naturelle, aller créer son propre parti et faire un parcours? Pendant ce temps, ses anciens camarades étaient restés toujours avec Blaise Compaoré jusqu'à ce qu'on arrive à l'approche de l'insurrection et que ses camarades d'hier se désolidarisent pour le rejoindre maintenant au niveau de l'opposition. Est-ce qu'en ce temps, on a parlé de retrouvailles? Je ne pense pas. Maintenant que... c'est le cas contraire, quand on parle de retrouvailles, moi je pense que ce n'est pas fait preuve vraiment de logique.
Merci, voilà. M.
Zerbo. Sinon, il serait resté dans sa famille, comme vous le dites, il n'avait pas besoin de quitter pour créer l'UPC.
Emmanuel Sim, comment vous, qui êtes troisième vice-président d'un parti d'opposition, du principal parti d'opposition au Cameroun, et qui jusqu'ici, c'est vrai que votre parti est récent, hein, jusqu'ici en tout cas vous n'êtes pas entré au gouvernement, est-ce que vous envisagez peut-être de le faire au nom de ce que vient de dire M. Zerbo, de l'intérêt supérieur de la nation? Puisque c'est l'argument qu'avancent généralement ses opposants pour rejoindre le gouvernement.
Écoutez, madame, je voudrais qu'on se mette d'accord sur les principes. Dans une démocratie qui fonctionne normalement, après une élection législative, par exemple, il se dégage une majorité qui est appelée à former un gouvernement pour diriger le pays et à appliquer une politique qu'elle a présentée au peuple pendant la campagne électorale. Le parti qui est perdant ou les partis perdants forment ce qu'on appelle l'opposition pour s'opposer précisément à l'action gouvernementale et apporter la critique et même parfois des suggestions. Donc il y a d'un côté la majorité qui va gouverner et de l'autre la minorité qui va s'opposer. C'est comme ça que ça doit fonctionner normalement. Maintenant, la question de l'intérêt supérieur de la nation qui est posée, on peut le comprendre dans des cas extrêmement rares. Il faut, par exemple, qu'il y ait une crise sociopolitique très grave dans le pays et qui risque de mettre en cause l'unité de la nation ou les intérêts supérieurs du pays. Oui, on peut dans...
Allô, Maître Sim? Maître Sim, vous m'entendez? Nous avons perdu la liaison avec Yaoundé, il me semble. Docteur Arthur Banga, vous êtes là?
Oui, je suis là, je vous entends.
Est-ce que finalement on ne met pas tout et n'importe quoi un peu dans ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation? On l'a vu dans votre pays, la Côte d'Ivoire, où à un moment donné le PDCI s'est allié avec le RDA et finalement le mariage n'a pas duré, il s'est terminé par un divorce. Est-ce que les raisons pour lesquelles ces partis d'opposition ou ces membres de partis d'opposition rejoignent ceux qu'ils combattent, est-ce que ces raisons sont toujours fondées et justes?
Visiblement non. Comme l'expliquait tout à l'heure le responsable politique de l'UPC au Cameroun.
MRC, pardon.
Le MRC au Cameroun, excusez-moi, j'ai confondu avec
l'UPC. L'UPC, c'est le parti de Zéphirin Diabré, voilà, au Burkina.
Normalement, la logique, hein, c'est que quand on sort d'une élection, il y a un parti au pouvoir, une coalition au pouvoir et une coalition dans l'opposition. Pourquoi? Parce que normalement, vous avez passé la campagne à opposer des programmes quand même différents, des approches différentes de gouvernement, des approches différentes pour les 5 ou 4 années qui vont arriver. Et après les élections, c'est-à-dire que les électeurs ont choisi l'une de ces approches. Et donc c'est cette approche-là qui doit gouverner. Et l'autre doit s'opposer avec intelligence, parce qu'un pays, pour fonctionner dans sa démocratie, non seulement mais pour son développement, il a besoin d'une opposition forte, une opposition cohérente, une opposition qui plane comme une épée de Damoclès.
Et qui constitue véritablement le contre-pouvoir.
Exactement, exactement. Mais si après l'élection, tous les partis d'opposition rejoignent le gouvernement dans une sorte de gouvernement pour l'intérêt de la nation, non, l'intérêt de la nation, on peut l'évoquer dans des situations particulièrement graves. Par exemple, on l'a vécu en Côte d'Ivoire, une crise militaire, politico-militaire aiguë. On peut avoir une crise sociale poussée. On peut avoir des événements importants. Le pays peut être menacé de guerre. En ce moment-là, oui, l'union sacrée, les fondements de la nation sont menacés. En ce moment-là, oui, l'union sacrée, l'intérêt de la nation impose que pour un moment, on suspende toutes nos divergences et qu'on se retrouve sur les valeurs communes.
Voilà.
Deuxième chose qui est possible, c'est qu'on ait un accord de gouvernement. Aujourd'hui, est-ce que le MPP et l'UPC se sont assis pour comparer leurs programmes, ont trouvé dans leur programme qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qu'on peut arranger avant de rentrer dans un gouvernement? Quand il n'y a pas d'accord de gouvernement, encore ça, on a l'impression que les hommes politiques jouent plutôt l'intérêt personnel. Et ça crée la confusion à la fois chez les observateurs, mais aussi chez leurs militants. Parce que vous expliquez à ces militants, 2 mois avant, que le régime en place est pourri et qu'il doit partir, et 2 semaines après, vous venez leur dire, non, écoutez, non, c'est... Voilà, ça crée même la confusion.
Merci.
Et ça décrédibilise la politique.
Merci.
Et les hommes politiques.
D'accord, décrédibilise la politique. Je ne sais pas si on a trouvé Maître Emmanuel Sim, vous êtes là?
Oui, je suis en ligne, madame.
Oui, est-ce que vous pouvez terminer votre analyse, maître? Vous disiez un peu, comme ce qu'expliquait Dr Arthur Mbanga, que en cas de crise sociale, si le pays est menacé de guerre, enfin, que sous certaines conditions, on peut envisager justement de chercher le consensus et de taire les querelles politiques pour d'abord se consacrer, pour concentrer les énergies à cette crise.
Absolument, madame. Je pense que même dans les pays démocratiques, je vais dire comme ça, de vieille tradition, lorsqu'il y a une menace dans le pays, l'ordre gouvernant appelle au moins l'opposition à discuter sur les solutions à apporter à la crise. On a vu cela en France lorsque le terrorisme a envahi les rues de Paris. Le président Hollande a appelé tous les partis d'opposition pour discuter avec eux et savoir comment la nation va rebondir par rapport à la situation.
Et si on ramenait cela au Cameroun, il y a une crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a Boko Haram qui multiplie les attaques dans la partie septentrionale du Cameroun. Est-ce que ce sont des raisons valables pour créer un rapprochement, peut-être ou susciter un rapprochement entre MRC et RDPC au pouvoir?
Oui, beaucoup de camarades du parti pensent que c'est envisageable. Ce n'est pas la seule crise d'ailleurs. Et il y a une troisième crise, comme vous l'avez pas cité, c'est cette crise sociopolitique qui est née après les élections présidentielles contestées de 2018, qui opposait encore le Cameroun dans la tourmente. On a vu des leaders d'opposition, le président Kanto, être en prison, alors qu'il y a encore 150 militants du MFC qui sont emprisonnés, je vais dire en Bastille. Je dis dans ces cas-là, oui, on peut imaginer que les partis s'assoient, discutent ensemble et cherchent les moyens de sortir de ces crises.
N'est pas d'entrer au gouvernement du MRC.
Non, ce serait autre chose, madame. Il faudrait déjà qu'on le propose au MRC. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Merci. On va marquer.
Ce que je vous demandais déjà, c'est que l'opposition soit associée, n'est-ce pas?
Aux discussions. Merci. On va marquer une pause et on vous retrouve dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous parlons des conséquences possibles de l'entre-gouvernement de l'ancien leader de l'opposition au Burkina, Zéphirin Diabré, et la crédibilité d'ailleurs aussi sur l'opposition en Afrique. Et nos invités pour en parler sont Emmanuel Sim, troisième vice-président du MRC, principal parti de l'opposition au Cameroun, Dr Arthur Banga, historien et politologue, enseignant-chercheur à l'université Oufouet-Boigny, en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, Moussa Zerbo, porte-parole de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, de Zéphirin Diabré à Ouagadougou. Et nous allons justement vous retrouver, M. Zerbo. Est-ce que vous comprenez les critiques que viennent de formuler les autres intervenants sur l'entrée au gouvernement de M. Zabré? Est-ce que le Burkina est réellement en crise pour justifier ce rapprochement avec le pouvoir?
Oui, ça c'est une méconnaissance grave de l'histoire du Burkina. Vous demanderez à quiconque au Burkina, nous nous disons le Burkina Faso est en guerre. En guerre contre qui? Contre le terrorisme. Et vous savez que chaque jour que Dieu fait, c'est des centaines, voire des dizaines de personnes qui sont assassinées et de beaucoup de gens qui ont quitté leur milieu et aujourd'hui sont des déplacés internes au Burkina Faso, ici à l'intérieur du pays. Combien de camps nous avons ici pour les réfugiés? Il y en a plusieurs à l'intérieur. Vous arrivez dans des régions où c'est complètement vide. Et depuis 2016, pratiquement, nous sommes en lutte contre ce terrorisme-là qui ne dit pas son nom. Et à quelque part, il y a eu même des supputations, des suspicions entre les frères du même pays pour penser que d'autres étaient à l'origine.
C'est-à-dire que le pouvoir accusait l'ancien président d'être responsable de la situation, de la dégradation de la situation sécuritaire.
Absolument. Donc, raison pour laquelle nous trouvons qu'il y a lieu qu'il y ait une réconciliation, et une réconciliation vraie entre toutes les filles et tous les fils du pays.
Mais M. Zabo, qu'est-ce qui va changer? On sait que le président Kabore organisait déjà des concertations avec l'opposition pour essayer de trouver des solutions pour faire face à cette crise sécuritaire. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui que le président Diabré est au gouvernement? Puisque les concertations, elles se faisaient déjà.
Les concertations se faisaient et elles ont donné quel résultat? Absolument rien.
Donc, vous pensez que le fait d'entrer au gouvernement de M. Diabré donnera plus de résultats?
Dans le cadre formel, dans le programme de société de M. Zéphirin Diabré, lorsque vous prenez, la question de la réconciliation nationale est belle et bien développée et les stratégies qui sont préconisées pour pouvoir y arriver. Et je pense aussi qu'il ne s'agit pas ici de réconcilier pour réconcilier. Il faut des acteurs. Et l'un des acteurs clés qui puisse concilier les Burkinabés aussi, c'est la personne de Zéphirin Diabré. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres acteurs, mais qui mieux que lui, et je l'ai expliqué en début d'émission pour vous dire, de par sa posture, est mieux placé pour parler aussi bien à ceux d'hier et à ceux d'aujourd'hui et ceux qui sont allés à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a des démarches qui ont été proposées pour pouvoir y arriver, à savoir vérité, justice et réconciliation nationale. Donc, depuis 2016 jusqu'en 2020, si on n'a pas pu véritablement poser des jalons pour cette réconciliation, le président du Faso, Rochma Christian Kabore, à son investiture, en a fait son cheval de bataille.
D'accord,
et je pense que c'est conscient de ce gros défi qu'il a estimé qu'il était bon de faire appel à d'autres personnes qui puissent lui apporter des coups de franche pour pouvoir arriver à cela.
D'accord. Monsieur Diabré a déclaré justement que la construction de la réconciliation nationale doit se faire sous le triptyque, dit-il, vérité, justice et réconciliation. Est-ce qu'aujourd'hui parler de réconciliation n'est pas un peu brûler les étapes? On parle de réconciliation alors même que cette crise sécuritaire qui justifierait sa nomination, si j'ai bien compris votre analyse, reste encore forte. Cette crise sécuritaire est toujours là et les attaques se multiplient, l'insécurité règne toujours.
Vous savez que le phénomène du terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Et comment ces terroristes-là arrivent à rentrer dans nos villages, à arriver dans nos villes, et sans qu'il n'y ait véritablement entre griffes une certaine complicité tacite de certaines personnes. Donc, il y a la nécessité pour nous qu'il y ait cette réconciliation entre nous et ceux qui pensent qu'ils ont été lésés, qu'ils puissent se sentir dans leurs droits.
Pardonnez-moi, monsieur Zerbo, peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien. Et soyez bref, s'il vous plaît, dans votre réponse pour que les autres puissent s'exprimer. En quoi est-ce que la réconciliation va être un élément décisif dans la paix, dans la sécurité du Burkina?
La réconciliation, on ne peut pas parler de développement. Il faut que les peuples, la population d'un même pays accepte se parler, accepte se mettre ensemble pendant que vous avez d'autres compétences qui sont hors du pays, qui sont allées suite à des situations que nous tous nous avons connues en 2014. Nous nous disons qu'il y a lieu que chacun puisse revenir et qu'ensemble nous puissions nous donner la main pour arriver à une réconciliation vraie.
Dans le retour de Blaise Compaoré sera une priorité, puisque vous parlez de retour de tout le monde.
Oui, tout le monde, mais il n'y a pas que Blaise Compaoré, il y a les autres qui sont en exil aussi.
Merci beaucoup. Monsieur Arthur Banga, vous êtes là?
Oui, je suis là. Je vous...
Convaincu par ces arguments?
Non, pas du tout, pour deux raisons. La première, c'est que Zéphirin Diabri a fait une campagne active sur la question de la sécurité. Il en a fait la plus grande faiblesse du régime Kabore. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser cette question de sécurité pour entrer au gouvernement. C'est un non-sens. Vous avez passé tout le temps durant la campagne à dire que Roch Macharvré a mal géré la sécurité. Ça a été son point faible. Aujourd'hui, au nom de la sécurité, vous rentrez au gouvernement. Non, c'est... Et d'ailleurs, c'est ce que les frères Diabré payent. Le fait, justement, qu'on ne trouve pas de cohérence au cheminement. Tantôt avec... il sort du CDP, alliance avec le CDP, retour avec le MPP. Aujourd'hui, je pense que ces militants n'y voient rien, n'y comprennent rien.
Puisqu'avant l'élection, justement, il avait fait une alliance avec Eddy Kombouygo pour soutenir celui qui serait le mieux placé. Donc vous pensez que la base ne comprend pas où il veut aller, ne comprend pas la direction du parti?
Dites-moi la direction, puisqu'on a vu tout et son contraire en 5 ans. Et deuxième chose que je veux dire, la réconciliation, il veut être l'acteur principal de la réconciliation. Se mettre dans le gouvernement, c'est perdre en autonomie, c'est perdre en initiative. Il aurait pu négocier au commissariat une commission autonome. En ce moment-là, il aurait eu beaucoup plus de coups de franche que d'entrer dans un gouvernement. Parce que entrer dans un gouvernement aujourd'hui, ça veut dire être d'accord avec tous ceux qui sont dans le gouvernement pour toutes les autres questions.
Merci
pour
beaucoup.
Toutes les autres questions.
Voilà. Maître Emmanuel Sim, avant la pause, je voulais que vous répondiez rapidement sur ce que vous avez dit avant la pause, que oui, le MRC est prêt à discuter avec le pouvoir de certaines crises sécuritaires, dont sécuritaires, mais pas d'entrer au gouvernement. Est-ce que vous dites aujourd'hui que si le pouvoir vous faisait un clin d'œil, ou vous tendez la main pour entrer au gouvernement, le contexte actuel pourrait être un argument pour que vous donniez une suite favorable à cette main tendue du pouvoir éventuel, bien sûr.
De toute façon, il faudrait que les instances des gens du parti se réunissent et qu'on en discute. Pour l'instant, ce que nous demandons, c'est que nous puissions discuter sérieusement dans un vrai cadre de dialogue sur les questions électorales, par exemple au Cameroun. Vous savez que les crises post-électorales sont récurrentes dans ce pays à cause précisément de la contestation permanente sur les textes de loi qui régissent l'élection au Cameroun. Je pense que c'est un sujet de débat sur lequel on peut discuter.
Dans l'entrée, excusez-moi, mais voilà, vous parlez de discussion, moi je parle de au-delà des discussions, le débat c'est sur l'entrée au gouvernement des membres de l'opposition ou des partis d'opposition en Afrique. Donc, l'entrée au gouvernement du MRC, quelles qu'en soient les raisons, n'est pas un sujet tabou?
Non, rien n'est tabou. Le MRC ne considère pas un sujet, un autre, mais pas un sujet.
On l'a perdu, malheureusement. Monsieur Zerbo, vous m'entendez?
Revenir.
Allô?
Allô? Oui, je voudrais revenir.
Oui, je ne sais pas qui parle, je ne sais pas si c'est Monsieur Zerbo. C'est Monsieur Zerbo.
Oui,
allez-y
Zerbo.
Très brièvement, Monsieur Zerbo, ensuite.
Voilà, je crois que le premier intervenant tout de suite quand il parle de la question sécuritaire, à ce que je sache, il faut qu'on le rappelle, M. Zéphirin Diabré n'est pas rentré dans le gouvernement pour des questions sécuritaires, auquel cas on l'aurait nommé comme ministre de la Sécurité. Il y a un ministre...
Non, vous avez dit que les conditions sécuritaires, c'est entre autres les raisons pour lesquelles entre au gouvernement, c'est à cause de la situation sécuritaire.
On dit que la réconciliation peut être un facteur, vu qu'il y a certaines suspicions qui puissent apporter justement une contribution à la lutte contre le terrorisme. Là, c'est la collaboration qu'il y a entre la population. C'est cela, nous disons, en termes de réconciliation vraie, un peuple réconcilié, un peuple uni, je ne pense pas que l'on puisse rentrer et semer le désordre qu'on veut.
Mais maintenant, sur la base, est-ce que vous pensez que la base comprend votre décision, votre orientation? Et aussi, en quelques mots, quel est le coût politique d'une telle décision? Est-ce que vous ne craignez pas de voir votre parti être perdre du terrain avec ce rapprochement avec le pouvoir?
Absolument pas. Pour quelqu'un qui est observateur de la scène burkinabé, ça fait 10 ans que l'opposition, l'IPC est dans l'opposition et a toujours joué sa partition en apportant justement ce qu'elle doit apporter. Et nous avons toujours dit en politique qu'il n'y a pas, j'allais dire, d'adversaire éternel, absolument les circonstances du moment lorsque...
Mais pour vous, donc, il n'y aura aucune conséquence politique sur votre parti et sur l'opposition burkinabé de votre entrée au gouvernement?
Même pas, absolument pas. Nous pensons que si, par bonheur, M. Zéphirin Diaribé arrive à faire de cette réconciliation une réalité au Burkina Faso, je pense que c'est tout le pays qui en gagnerait. Et M. Zéphirin en sort grandi.
Merci.
Pour avoir apporté quand même sa contribution à l'édification du pays.
Merci beaucoup. Monsieur Sim, le fait de vous perdre nous embrouille un peu notre évolution dans ce débat, mais on va vous laisser quand même conclure et répondre rapidement à la question que je vous posais. Donc,
oui.
L'entrée au gouvernement du MRC n'est pas tabou, disiez-vous, et qu'il n'y a aucun sujet tabou aujourd'hui. À quel prix seriez-vous prêt en tant que leader, parti leader de l'opposition, à vous rapprocher du pouvoir, à composer avec le RDPC?
Non, à quel prix? Le seul prix, c'est la paix dans le Cameroun, la paix dans notre pays. Je l'ai déjà dit. Il y a des questions aujourd'hui qui préoccupent notre pays sérieusement. Et je pense que si, avec intelligence, sans esprit de roublardise, le gouvernement nous demandait, dans un accord de gouvernement bien négocié, d'y rentrer, le parti pourrait y réfléchir. Mais il faut que ce soit...
Et que dites-vous de l'expérience de l'UNDP qu'il a fait et aujourd'hui, le parti est quasiment inexistant? Un autre parti l'a fait avant vous et d'autres partis d'opposition au Cameroun l'ont fait aussi avant vous.
Je vous explique, madame. Un accord de gouvernement doit être limité dans le temps. On doit se dire qu'on va gouverner pendant 2 ans, par exemple, avec pour objectif principal d'atteindre la résolution de la crise anglophone au nord et au sud-ouest, avec l'objectif principal de mettre en place et sur pied des mécanismes électoraux consensuels, crédibles, qui permettent des élections non discutées et transparentes. On ne peut pas entrer au gouvernement dans un accord ad aeternam vitam, comme l'a fait l'UNDP, parce que l'UNDP aujourd'hui, en fait, a été avalé par le parti au pouvoir. Pour moi, un accord de gouvernement doit être limité dans le temps et avoir des objectifs absolument précis. Quand ils sont atteints ou quand ce temps est arrivé, eh bien, il faut rentrer dans l'orthodoxie que j'ai dite au départ, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un gouvernement structuré et de l'autre côté une opposition forte qui existe dans les activités du devant et qui puisse apporter une contradiction à la partie adverse qui peut être le gouvernement. Voilà ce que je veux dire sur ce point.
Merci, Maître Emmanuel Simon. Marque une dernière pause. On se retrouve dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Donc, Émission, et dans votre émission ce soir, nous parlons de l'entrée au gouvernement de l'ancien leader de l'opposition au Burkina Faso, Zéphirin Diabré, ses conséquences sur l'opposition burkinabé et africaine, avec nos invités Emmanuel Simne, troisième vice-président du MRC, principal parti d'opposition au Cameroun, Dr Arthur Banga, politologue à l'université Oufoué-Boigny en Côte d'Ivoire, et Moussa Zerbo, porte-parole de l'UPC de Zéphirin Diabré à Ouagadougou. Dr Arthur Banga, vous avez également écouté Maître Sim du Cameroun dire qu'il n'est pas exclu que son parti envisage des discussions et peut-être même une entrée au gouvernement. Comment appréciez-vous ce qu'on peut considérer comme la facilité avec laquelle les opposants ou même leurs leaders finissent par composer avec ceux qu'ils combattaient hier? On l'a vu dans plusieurs pays, je parlais du Cameroun, on vient de voir le Burkina, il y a aussi le Togo et bien d'autres.
Non. Je veux dire déjà, pour revenir d'abord rapidement à ce que disait le porte-parole de Zéphirin Diabré, on aurait pu comprendre si la base avait été associée à cette décision d'entrer au gouvernement. Un congrès, un duo politique qui se réunit en débat, oui, en ce moment, on peut être sûr. Mais c'est l'homme politique qui a perdu le plus de terrain depuis les dernières élections. Donc on voit très bien que son manque de stratégie, son manque de cohérence est en train de lui faire perdre du terrain. Pour revenir à la question générale, il y a deux choses. D'abord, la démarche que nous présente le porte-parole du parti d'opposition camerounais est cohérente. C'est-à-dire, on peut avoir un accord de gouvernement sur des points précis pour une période donnée. En ce moment, par exemple, préparer des élections, être dans des crises, etc. Mais il faut élargir même la question pour comprendre qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui pèsent. La première chose, les oppositions ne sont pas forcément dans des conditions normal, dans des conditions démocratiques, toujours en Afrique. Bobby Wine qui passe tout son temps.
Vous faites allusion justement au harcèlement parfois dont ils sont victimes de la part du pouvoir. Exemple, il y a comme une pression qui les oblige ou bien qui vise à les pousser finalement à renoncer et à rejoindre le pouvoir.
Tout à fait. Ça devient, c'est souvent risquer sa vie, risquer sa carrière, risquer sa famille, être opposant. Et déjà, ça c'est un gros problème. Faut qu'on réfléchisse à une démocratie qui laisse la place à l'opposition. Dans certains pays, on a eu ce statut de chef de l'opposition. Je pense qu'on l'avait au Burkina, on l'a au Sénégal, on l'a dans la Constitution ivoirienne, on l'a dans certains pays, en Guinée, au Niger, qui peut permettre déjà de protéger l'opposition. Il faut qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'engage en politique dans l'opposition ne soit pas contrarié. Bien au contraire, qu'on se dise que c'est quelqu'un qui a une façon de voir, une façon d'apprécier la situation aussi.
Mais c'est peut-être valable pour certains partis, mais pas pour certains pays, mais pas pour d'autres. On ne va pas dire que c'était le cas de Zéphirin Diabré au Burkina.
Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. J'explique certaines situations. Je suis tout à fait d'accord. Et la deuxième chose, pour revenir à ces opposants, il faut que les opposants eux-mêmes soient cohérents dans leur démarche. Voilà. Quand on est allié aujourd'hui, on repart. Certains en Côte d'Ivoire ont quitté le gouvernement à 6 mois des élections pour retrouver l'opposition. Il y a ce manque de cohérence aussi au sein des oppositions elles-mêmes. Merci. Elles aussi, elles ont des problèmes de
fonctionnement. Et quelle en est la conséquence sur ces partis d'opposition et sur la crédibilité même de ces partis un peu partout en Afrique?
Donc ces oppositions-là perdent en crédibilité. Du coup, il y a de nouvelles formes d'opposition qui émergent, les réseaux sociaux, les mouvements comme il y en a marre, les mouvements de la société civile qui captent tout l'espoir que les gens plaçaient à ces oppositions parce qu'elles ne sont plus cohérentes, elles ne sont plus crédibles.
Il y a une rupture de confiance.
Au-delà même d'elles, c'est tout le système politique qui fait que de plus en plus, on a des taux de participation faibles, on a une jeunesse qui ne croit plus en la politique, qui ne croit plus en l'action politique, Merci. Que ce soit celles qui viennent du pouvoir ou de l'opposition. Et donc ce manque de cohérence déteint au-delà même de l'opposition sur toute la politique. Merci. Et comme aujourd'hui, on a des formes d'engagement citoyen, on a des formes de mobilisation, ça décrédibilise, ça fait que les gens s'intéressent de moins en moins à la politique.
Merci
ou
beaucoup.
À la façon classique et traditionnelle de faire de la politique.
Merci, Dr Banga. En quelques mots, M. Zerbo, les conséquences, est-ce que vous n'avez pas peur que vous laissiez trop le champ libre désormais au CDP, qui va forcément peut-être reconquérir plus facilement le terrain et peut-être se positionner définitivement pour 2025?
Je ne pense pas du tout, parce que l'UPC en tant que formation politique ne cesse pas d'exister. L'UPC va continuer toujours ses activités sur le terrain. Mais dans tous les cas, comme on l'a dit, en 10 ans, l'UPC a été chef de file de l'opposition et a mené ce combat. Et au finish, aujourd'hui, est-ce que vous dites que ça a permis d'avoir plus d'espace ou plus de place que le CDP? La preuve en est que le CDP, qui n'était pas chef de file de l'opposition aujourd'hui, a plus de députés que l'UPC, par exemple. Donc je pense que l'analyse que le docteur fait de l'autre côté, ça c'est des analyses un peu, j'allais dire, un peu superficielles, qu'il m'excuse le terme, mais je crois que le cas du Burkina Faso est un cas spécifique. L'UPC n'entre pas dans le gouvernement dans le but, j'allais dire, d'aller conquérir, je ne sais pas, dans le but d'avoir un poste, pour avoir un poste. Ça a été une sollicitation, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui du peuple burkinabé.
Merci beaucoup.
Chaque peuple a ses réalités, chaque peuple réagit conformément à ce qui est la préoccupation de l'heure dans son pays.
Merci, M. Zerbo. On va laisser le mot de conclusion aussi à M. Maître Emmanuel Sim. Alors, le docteur Arthur Banga disait que c'est dur d'être opposant en Afrique et nous savons qu'au Cameroun, M. Kamto, votre leader, a été plusieurs fois incarcéré et aussi assiégé. Mais est-ce que la solution qui consiste à entrer au gouvernement est la bonne, avec ce risque de crédibilité que vient de parler Dr Banga?
Non, madame. Non, je dis ceci. L'entrée au gouvernement n'est pas une sinécure. Elle n'est pas une sinécure. Ce que les partis demandent au Cameroun, dans l'opposition, c'est des choses très simples. Un système électoral crédible, la fin de la guerre au nord et au sud-ouest. Donc, pour nous, c'est vraiment la dernière étape qu'on pourra envisager, c'est la dernière entrée au gouvernement. Pour l'instant, ce n'est pas le problème. Par contre, le docteur Banga dit une chose absolument importante. Madame, est-ce que vous savez que moi, je devais, à titre personnel, me remarier et le maire de la ville de Yaoundé a refusé de célébrer mon mariage?
On le sait, maître, vous l'avez finalement fait. Voilà. Oui, on l'a dit, c'est dur d'être opposant, mais est-ce que c'est ça qui fait qu'on peut expliquer ou comprendre ou justifier l'entrée au gouvernement de certains membres de l'opposition?
Non, je dis, les principes doivent être, madame, les mêmes. Les principes sont les mêmes. Il faut qu'il y ait une opposition qui s'oppose et une majorité qui gouverne. Ce principe, on ne va jamais tergiverser dessus. Je voudrais que vous compreniez que pour nous, c'est ce qui doit se passer. Mais en même temps, on se bat pour qu'il y ait demain dans notre pays et partout en Afrique des conditions idoines qui permettent précisément qu'il y ait une vraie opposition
qui exerce librement son rôle de contre-pouvoir.
Librement, voilà.
Merci beaucoup.
Absolument. Dans ces conditions, évidemment, la question ne se poserait même plus.
Merci beaucoup, maître Emmanuel Sim, troisième vice-président du MRC au Cameroun, le principal parti d'opposition, parti de Maurice Kamto en ligne de Yaoundé. Merci à vous, docteur Arthur Banga, politologue, enseignant-chercheur à l'université Oufouet-Boigny en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et merci également à vous, maître monsieur Moussa Zerbo, porte-parole de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement à Ouagadougou, le parti de Zéphirin Diabré, qui est donc entré au gouvernement, l'ancien leader de l'opposition est entré au gouvernement comme ministre de la Réconciliation nationale. Merci à Hugo Vallière et Edouard Ning pour la préparation de cette émission que vous retrouverez en rediffusion à 23h heure de Paris et bientôt sur africaradio.com. Merci et à tout de suite.